Interview.
2 jours.
Aujourd'hui, Radio Royan Vercors est sur le plateau du Vercors. On se trouve à La Chapelle en Vercors, dans le local jeune. Le local jeune, c'est un local qui est mis à disposition par la communauté de communes Royan Vercors à l'association Vertapop. Donc, c'est l'asso qui gère le pôle jeunesse. Et donc, c'est un local qui est mis à disposition des jeunes ados du plateau du Vercors Sud, qui viennent donc les mercredis après-midi. Et aujourd'hui, sur les ondes de Radio Royan Vercors, on va faire une émission spéciale. On va parler d'Octobre Rose et du cancer du sein. C'est un groupe de jeunes ados qui sont venus nous voir pendant le Salon des associations, qui avaient cette envie de faire un projet pour Octobre Rose. Et donc, ce groupe d'ados, c'est les Pink Team. Et donc, elles ont choisi de convier 2 personnes autour de la table. C'est Françoise et Julie. On va pouvoir venir revenir vers vous plus tard. Et donc, moi, tout d'abord, j'avais envie de proposer donc au Pink Team de se présenter.
Bonjour, moi, c'est Amy, j'ai 12 ans, je suis au collège de la Chapelle en Vercors et j'habite à Rancurel.
Bonjour, moi, c'est Lilou, j'ai 12 ans, j'habite à la Chapelle en Vercors et je suis au collège de la Chapelle en Vercors.
Bonjour, moi, c'est Thelma, je suis au collège de la Chapelle en Vercors, j'ai 11 ans et j'habite à Saint-Julien en Vercors.
Bonjour, moi, c'est Anna. J'ai 12 ans et j'habite à Saint-Martin.
Bonjour, moi c'est Malou, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Agnan, en Vercors.
Et alors Malou, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que vous vous connaissez avec les filles ?
Globalement, le groupe, il s'est connu tous depuis le collège, mais il y en a quelques-unes dont on se connaît depuis qu'on est toutes petites.
Et donc, vous êtes un groupe d'amis qui a décidé de faire cette interview. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi d'inviter Françoise et Julie ?
Bah, parce qu'on trouvait ça intéressant de parler à des gens qui ont déjà eu des cancers et du sein. Et que, surtout au début, on voulait surtout faire une vente de gâteaux pour l'association Lolo Allo. Mais en fait, on s'est dit que le plus important, c'était quand même d'expliquer aux plus jeunes et aux plus grands aussi ce que c'était le cancer du sein.
Ouais, il y a tout un enjeu de sensibilisation qu'on va pouvoir aborder donc dans cette interview. Et donc moi, pour replacer le contexte, cette interview, on l'a préparée pendant 2 mercredis après-midi. Je suis venue au local jeune avec vous, puisque vous m'aviez sollicité pour que je vous accompagne dans ce projet d'interview de sensibilisation donc autour d'Octobre Rose et du cancer du sein. Et donc, vous avez préparé une trame de questions que vous allez dérouler tout au long de l'interview. Moi, je présente juste la mise en contexte au début, et puis après, je vais vous laisser la main. Et donc, je voulais aussi faire un petit rappel historique d'Octobre Rose, parce que Octobre Rose, on le connaît comme campagne de sensibilisation, de dépistage du cancer du sein. Et en fait, en faisant quelques recherches, j'ai appris que c'est né dans les années 90, d'abord aux États-Unis, autour de mobilisations de femmes, d'associations et de soignantes qui refusaient le silence autour du cancer du sein, parce qu'il y avait pas mal de silence autour de ça. On n'osait pas en parler à cette époque-là, parce que c'était un tabou social, on ne parlait pas du corps des femmes, de leur intimité, ni de la sexualité. Et donc, ce silence, y a beaucoup de femmes qui vivaient leur combat contre le cancer toutes seules. Et donc, elles ont refusé cet effacement. Et donc, à un moment donné, elles se sont organisées dans les années 80-90 pour descendre dans la rue et clamer pas mal de slogans. Donc, il y avait notamment « Nos vies comptent, nos corps ne doivent pas être invisibles ». Il y avait aussi une poétesse et militante qui s'appelle Audrey Lorde qui disait « Votre silence ne nous protégera pas ». Et donc, cette femme, elle a beaucoup écrit sur le cancer du sein et donc sur le silence et le fait de transformer donc cette expérience personnelle en lutte collective. Et donc, ces femmes, elles sont descendues dans la rue pour en parler, pour exiger beaucoup plus de recherches, exiger du dépistage, des campagnes d'information et surtout donc la possibilité de parler librement de cette maladie. Et ça, c'est important de le rappeler d'où ça vient, cette histoire du ruban rose. Je pense qu'on va pouvoir en reparler après, donc de ce ruban rose. Et donc aujourd'hui, on parle d'Octobre Rose. Donc on va diffuser cette interview à cette occasion, début octobre, et puis on va essayer de la rediffuser aussi courant octobre. Donc c'est pour rappeler que le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, mais c'est aussi un mois pour se souvenir que ces avancées ont été conquises par la parole collective, par les marches, par les campagnes de sensibilisation, par tout un tas d'associations, et donc par des femmes qui se battent pour elles-mêmes et pour toutes. Et donc moi, je suis assez touchée qu'on reçoive donc dans ce local jeune plusieurs générations, puisque vous, comme on le disait, vous êtes ados, et puis on va pouvoir commencer à présenter également Françoise et Julie. Et donc, je vais te laisser, Lilou, la parole. Est-ce que tu peux prendre la suite de cette interview ?
Julie, toi, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire où tu habites et à quel est ton métier ?
Alors, bonjour, merci de nous avoir invités avec Françoise. On est déjà super contente et fière de venir discuter avec vous. Et bravo pour votre volonté de sensibiliser les gens face à cette cause de la prévention des cancers du sein sur Octobre Rose. Alors, moi, je m'appelle Julie, j'ai 45 ans, j'habite à Villard-de-Lans. Je suis fonctionnaire à la mairie de Villard-de-Lans.
Et est-ce que tu as une famille, des animaux de compagnie ? Quelles sont tes passions, par exemple ?
Alors, j'ai une famille, j'ai un fils qui a 18 ans, qui s'appelle Léon. J'ai beaucoup de passions, je fais du sport, j'adore la montagne, donc je fais vachement de rando, je fais vachement de ski, du VTT. Et j'ai aussi, je vis à Villard-de-Lans dans la montagne, mais je suis originaire de Bretagne. Et donc, je fais aussi beaucoup de sport aquatique, et notamment du surf. Et voilà, principalement, voilà, j'aime beaucoup l'océan.
Et toi, Françoise, c'est quoi tout ce que tu aimes faire ?
Alors moi, je suis Françoise, j'ai 65 ans. J'habite à La Chapelle depuis quelques années. J'étais infirmière une quarantaine d'années. Je suis maintenant retraitée. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai un chat et un cheval.
Oh.
J'ai eu des chèvres, des chiens et un tas de... Mais ça va, là, ça se calme un peu. Il reste un chat et un cheval que j'aime beaucoup. Et mes enfants. J'ai deux animaux parce que mes enfants sont très loin. J'ai trois enfants, un guide de plongée aux Philippines, une qui tient un restaurant à Dubaï et l'autre qui est partie en Jordanie. Donc, du coup, j'ai un chat et un cheval. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? C'est tout. Qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime beaucoup rien faire. Ça, j'adore être devant une fenêtre, regarder la montagne et ne rien faire. Sinon, je marche beaucoup. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup et je dessine. Je fais beaucoup de peinture. Et je suis très contente d'être là.
Et quand vous avez découvert votre cancer du sein, comment l'avez-vous découvert et comment avez-vous réagi, surtout ?
Alors, moi, j'ai eu deux cancers du sein. J'ai eu un premier cancer du sein quand j'avais 31 ans et j'ai eu un deuxième cancer du sein quand j'avais 41 ans. Les deux, je ne les ai pas découverts de la même manière, d'accord ? Quand j'ai 31 ans, je suis très jeune, et en fait, un soir, sans faire exprès, je me touche un petit peu, et j'effleure ma poitrine, et je sens avec mes doigts, quand je touche ma poitrine, qu'il y a un petit truc qui est bizarre, mais pas un gros truc, hein, une petite boule. Je me dis, tiens, bon. Puis j'ai des petits seins, alors je touche un peu mieux. Puis là, je touche, et puis je sens une deuxième petite boule. Je dis, ça c'est bizarre quand même, deux petites boules dans un sein, hein. C'est pas normal. Pas de panique. Le lendemain, j'en parle à mon médecin en disant, j'ai découvert ça, ça me semble bizarre. Et le médecin m'a dit, pas de panique, vous êtes jeune, mais on va quand même faire des images pour contrôler. Donc du coup, j'ai été faire une échographie et une mammographie pour vérifier les petites boules qui étaient dans mon sein. Et donc, après, on rentre dans des épreuves médicales, mais avec des médecins et des docteurs. Mais du coup, ils m'ont dit, c'est un cancer du sein. Donc voilà, c'est comme ça, moi, que je l'ai découvert le premier, en me touchant. Voilà. Donc c'est un message qui est hyper important et que du coup, là, tout de suite, on va partager avec les auditeurs de Radio Royan Vercors. C'est l'importance de se surveiller et de se contrôler et de s'observer, voilà, de s'observer. Donc ça, c'est le premier. Et après, le deuxième, c'est un peu différent. Quand j'ai 41 ans, quand on a un premier cancer, après, on est tout de suite pris en charge pour être traité. Et quand on finit les traitements, on est extrêmement surveillé, comme du lait sur le feu. Donc du coup, tous les ans, quand on a fini les traitements contre un cancer, il faut aller faire des contrôles. Donc tous les ans, on va voir un médecin à l'hôpital et on refait ce qu'on appelle des imageries médicales. Donc on fait des appareils photo, voilà, qui nous prennent notre corps. Et donc c'est là, moi, ils m'ont trouvé le deuxième cancer à 41 ans, lors d'un contrôle.
Juste, je fais une petite aparté. Tu disais, on est extrêmement bien surveillé, on est OK, on est extrêmement bien surveillé en France. Il y a des pays où on n'est pas soigné et pas surveillé. Donc nous, on a beaucoup de chance. Il faut qu'on fasse tout pour conserver ces privilèges-là.
Ouais, donc là, tu mets le doigt sur le parcours de soins et puis la manière dont vous êtes traité. On va pouvoir y revenir juste après sur, voilà, justement, en France, effectivement, on parle beaucoup de l'hôpital public en ce moment. Enfin, voilà, c'est un service et un soin pour la société qui est important de souligner. Mais peut-être juste avant, on peut continuer avec toi, Françoise, sur ce moment du diagnostic.
Tu avais fini. Moi, j'avais une petite boule que j'ai sentie quand j'avais 35 ans. Je commençais mes études d'infirmière parce qu'avant, j'avais un autre métier. Et cette petite boule a été surveillée jusqu'à il y a 10 ans, 55 ans, où elle s'est transformée. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes histoires, mais c'est ça qui est bien. C'est que moi aussi, j'ai fait un dépistage, mais pendant longtemps, cette petite boule n'était pas cancérigène. Ce n'était pas cancéreux, plutôt. C'est plutôt ça. Et donc, des années après, ça l'est devenu. Ça est devenu et ça, en grossissant. Donc voilà, pareil, diagnostic, mammo, échographie, biopsie, IRM, voilà pour tout dire. Et ensuite, on est engagé, en général, c'est comme ça en France, hein, on est engagé dans le parcours de soins. Et on est en général, on en parlera, je pense, très bien pris en charge. C'est vraiment, vraiment en place en France. Hein. On est très soutenu, très bien prise en charge. Et c'est vrai que c'est une déflagration. Tu as dit un autre mot. Et c'est vrai qu'il faut encaisser le coup. Hein.
Et justement, Thelma, tu voulais enchaîner avec la question du parcours de soins.
Eh ben, moi, je voulais savoir, c'est quoi les traitements que vous avez suivis?
Alors, on en parlait tout à l'heure avec Françoise. Ce qui est important d'avoir à l'esprit quand on va parler des femmes et du cancer du sein, c'est que chaque femme est différente. Chaque cancer est différent et chaque parcours de soins va être adapté aux différentes histoires des personnes. Françoise et moi, par exemple, on a eu des traitements, mais on n'a pas forcément eu les mêmes traitements. Donc, on peut raconter notre parcours de soins, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit, qu'il peut y avoir autant de parcours de soins qu'il existe de femmes, d'accord ? Et chaque cancer est différent. Pour ma part, le parcours de soins, ce qu'il faut savoir, c'est quand on commence à partir en traitement maladie sur un cancer du sein, c'est un job à plein temps. Hein, on est généralement mis en arrêt maladie parce qu'on ne peut plus exercer notre emploi. Et du jour au lendemain, vous avez un agenda qui se remplit et c'est des rendez-vous médicaux. Au début, il faut faire ce qu'on appelle des bilans d'extension. Donc, on va nous regarder sous toutes les coutures, par les petits trous pour voir si le cancer est bien que au sein, parce qu'il y a des fois des risques que le cancer puisse se développer sur d'autres organes. Donc, quand on commence le protocole de soins, tout de suite, on est pris en charge et du jour au lendemain, bah, c'est un nouvel emploi. Enfin, moi, j'avais acheté un nouvel agenda et c'était un job à plein temps, c'est ce que je disais. Et du coup, alors, pour ma part, mes deux protocoles de soins ont à chaque fois été identiques. Moi, j'ai eu de la chimiothérapie. Donc, j'ai commencé par de la chimiothérapie et c'est ce qui, malheureusement, est le plus souvent révélateur qu'on a un cancer. C'est qu'on a une tête sans cheveux. On perd nos cheveux, notre pilosité, on peut voir nos poils, nos sourcils. Ça tombe. Donc, ça, c'est la chimiothérapie. Donc, j'ai eu de la chimio. Après, j'ai eu une opération. Et ensuite, j'ai eu de la radiothérapie. Et la radiothérapie, c'est on nous met sous des rayons et on vient assainir les particules de peau qui avaient été en contact avec les tumeurs. Et moi, j'ai eu cette image, avant de dire après à Françoise son protocole de soins, mais c'était affronter avoir un traitement de cancer, un parcours de soins, c'est comme un ultra-trail, d'accord, ou un marathon. C'est une course au long cours. Et c'est long, ça dure à peu près les trois étapes, la chimio, l'opération et les rayons, c'est à peu près 6 à 8 mois de traitement. Donc, pendant 6 à 8 mois, on ne fait que ça. Voilà.
On a bien discuté avant, et c'est vrai que ça, c'était intéressant aussi. Moi, si vous voulez, je voulais juste dire ça un petit peu avant, parce qu'on en a parlé. C'est avant le diagnostic que je n'étais pas bien. Mais toutes les femmes, comme tu viens de dire, sont tout à fait différentes dans leur parcours. Moi, ce n'est pas pendant les traitements. Quand on m'a dit « on vous prend en charge », laissez-vous aller, laissez-vous faire. Si vous nous faites confiance, on va vous guider. Moi, tout d'un coup, ça a été bien. Mais avant, je sentais quelque chose. Je sentais que ça avait changé dans mon sein. Et là, c'est là que j'ai eu peur et des anxiétés. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Et donc, le traitement, moi, ça a été un peu différent. J'ai eu d'abord 3 opérations. En principe, on n'en a qu'une, mais ils ne savaient pas trop. Et ils ont découvert en ouvrant, mais c'est souvent, il n'y en a qu'une. Hein. Ce n'est pas comme ça. Puis ensuite, j'ai eu chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie parce que mon cancer est hormonal, hormonodépendant. Contrairement au tien, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, moi je dirais que en tout et pour tout, ça a duré un an. Et je suis retournée au travail l'année d'après. Voilà, je me suis arrêtée une année. J'aurais pu m'arrêter 3 ans. Mais j'ai préféré retourner à mi-temps à mon travail.
Moi, je voulais juste faire peut-être une petite aparté sur justement ce parcours de soins et où est-ce qu'on va à l'hôpital. Parce que là, vous disiez, donc, vous habitez sur le plateau du Vercors. Il n'y a pas des hôpitaux non plus juste à côté. Cette question de la distance, et où est-ce qu'on va quand on a un cancer du sein, quand on est habitant d'ici est-ce qu'il faut aller en ville, loin, à Grenoble, à Lyon
On va à la ville.
Ouais, c'est ça.
On va à la ville.
Non, du coup, pour nous, c'est Grenoble. Ouais. Et ici, il y a 2 centres de cancérologie dans la région qui sont réputés. Il y a Grenoble et il y a Lyon. Et effectivement, Grenoble, il y a même 2 centres à Grenoble. Il y a l'hôpital public où il y a l'hôpital couple-enfant. Et on en parlait, il y a une qualité de soins. C'est vraiment remarquable. Ouais. C'est un très bon endroit pour se faire soigner et être pris en charge par des équipes compétentes et professionnelles. Et il y a le centre aussi Daniel Ollard à Grenoble. Voilà. Donc, il y a 2 espaces à Grenoble. Et puis, à Lyon, il y a le centre Lyon-Bérard.
Léon-Bérard.
Et du coup, ça, c'est des endroits qui sont éloignés. Après, on a la chance de vivre en France aussi. Et on a un système de santé qui, par exemple, quand on est en traitement de cancer, c'est ce qu'on appelle des affections longue durée. Et du coup, la sécurité sociale aide énormément, notamment les transports sont pris en charge et on part en taxi pour faire les traitements. Enfin, c'est loin, mais on nous aide à gommer la distance.
Voilà. Et il y a aussi, petite parenthèse, des maisons pour héberger les familles. Hein, je ne dis pas qu'il y a toujours de la place, je ne sais pas, mais je sais que ça existe. Hein, mm-hmm. Des maisons qui sont proches de l'hôpital où les familles peuvent être hébergées. Donc, quelqu'un a besoin de rester hospitalisé.
Ouais, c'est important de le préciser. Et Malou, je crois que tu avais d'autres questions à poser sur ce parcours de soins, notamment sur ce que ça produit sur le corps.
Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que c'est le même traitement pour toutes les femmes? Et c'est non, lesquelles?
En fait, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs formes de cancers. Donc il y a des cancers qu'on peut appeler hormonodépendants. Il y a des cancers qui sont aussi dits triple négatifs. Et chaque type de cancer aura des traitements différents. Toutes les femmes n'auront pas, par exemple, de chimiothérapie. La chimiothérapie, qui est vraiment le traitement le plus dur, hein, moi, je sais pas, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu comme étant le plus difficile dans le parcours de soins. La chimiothérapie, on va pas la donner, l'imposer à tout le monde. C'est vraiment, ça dépend de la nature du cancer. Donc après, les opérations, pareil, on a plusieurs formes d'opérations. On peut avoir une intervention sur le sein après les traitements et garder le sein. On peut aussi avoir une opération où on nous retire le sein. On peut choisir de se faire retirer les seins et de se remettre un faux sein, un sein en silicone, comme une prothèse, on appelle ça une prothèse, ou sinon rester à plat. Et du coup, tous ces choix et toutes ces histoires font que c'est difficile de répondre d'une manière... c'est vraiment différent pour tout le monde. Et chacune, on a cette sensibilité face aux soins et on ne réagit pas tous de la même manière.
Je rajouterais qu'il y a, pour certains cancers, possibilité, quand on enlève le cancer et quand on enlève le sein, de faire une reconstruction tout de suite. C'est pas pour tous, c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Moi, je connais des jeunes femmes, ou moins jeunes, qui ont fait tout de suite refaire leur sein. Mais il faut pas qu'il y ait derrière une radiothérapie, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est possible. Il existe tout un tas de techniques. Voilà.
Est-ce que votre corps il s'est transformé et comment vous avez réagi?
On m'a enlevé le sein gauche complètement et j'étais soulagée parce que je savais qu'il allait très mal. Moi je dis ça, d'autres femmes n'auraient pas du tout aimé cette solution. Moi je sais ce que je voulais. Et là j'ai une prothèse adhésive, tu vois, qui colle, c'est comme un petit poulpe, une petite pieuvre qui colle à ma peau. C'est extrêmement pratique parce que tu vois, je bouge et tout et ça ne bouge pas. Comment j'ai réagi, c'était un soulagement pour moi. Mais attention, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes, ce que je dis. Ça peut être une catastrophe aussi. Pour moi, c'était un soulagement. Voilà, moi, je peux en parler comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais cette masse et j'étais très soulagée. J'avais l'impression de renaître un petit peu. Et ma vie a pris une autre direction, effectivement. Je me suis sentie mieux dans ma peau. Mais ça m'appartient, ça. Comme on a dit tout à l'heure, toutes les femmes sont différentes.
Les conséquences sur le corps, tu vas, après les traitements, t'es fatigué, t'as un peu mal partout. Après les opérations, t'as des douleurs dans le dos, dans le cou. Donc, du coup, tu te fais accompagner par des, bah, notamment des kinés ou des masseurs pour t'aider à aller mieux. Mais c'est vrai que t'as un corps qui est quand même fatigué. Et alors moi, j'ai fait une solution qui est, voilà, moi, personnellement, avec mes deux histoires des deux cancers, moi, j'ai pris une décision qui est assez radicale et j'ai décidé d'être à plat. Donc, j'ai retiré mes deux seins. Au premier cancer, j'ai eu la chance de garder les deux parce que la chimiothérapie avait très, très bien marché. La tumeur est complètement disparue. Donc, on m'avait laissé mes deux seins. Et moi, j'étais contente. J'avais, par contre, une belle cicatrice. Et je disais, c'était rigolo, que je m'étais fait attaquer par le capitaine Crochet. D'accord, parce que j'avais une cicatrice, tac, une cicatrice de guerre, quoi. Et du coup, quand j'ai eu le deuxième cancer, effectivement, la question c'était un peu différente parce que j'avais déjà eu un premier et pour des raisons médicales, moi je préférais tout enlever. Et pour rejoindre Françoise, finalement, j'ai été soulagée de les retirer parce que, en fait, c'est comme un organe qui est malade. Enfin, on a un organe qui est malade, voilà. On a un bout de poumon qui est malade, on le retire. On a un bout de rein qui est malade, on le retire. Bah là, moi, je dis, c'est bon, j'ai eu un cancer du sein à droite, un cancer du sein à gauche. Ça va, j'ai fait le taf, je les enlève. Donc là, ça a été une décision pour moi qui a été assez réfléchie. Elle n'est pas facile à prendre. On ne sait jamais si ça sera le bon choix ou pas. Et c'est difficile au début, c'est différent, on n'a pas la même forme, ben, vous voyez, hein, je me cache pas, je ne mets pas de forme, donc je suis vraiment à plat, c'est un choix de vie.
Ben, merci à vous deux pour ce partage et ce témoignage, c'est assez touchant et émouvant. Et on imagine que donc, dans toute cette épreuve, ce parcours de soins qui dure entre 8 mois et 1 an pour chacune d'entre vous, on imagine et on espère en tout cas que vous avez eu un soutien de la part de votre entourage. Et c'était la prochaine question que les filles avaient préparée, la prochaine thématique de questions. Lilou, est-ce que tu veux rentrer dans cette thématique du soutien et de l'entourage ?
Quel rôle a joué votre entourage dans cette épreuve ?
Alors, mon entourage, d'abord, c'est toujours pareil. C'est mille histoires différentes. Mon mari m'a dit, toi, tu n'auras jamais de cancer. Oui, il m'a dit, toi, t'es une battante, t'auras jamais de cancer. Ben, oui, tu vois, au début, j'en ai un peu voulu, et puis mon entourage a été très bienveillant, et mes enfants, figure-toi, sont revenus de très loin, et sans que je le sache. Donc un jour, j'étais en train de manger, et j'ai vu arriver une voiture, et dedans, il y avait mes trois enfants. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Après, j'ai plein d'amis et de collègues que je connaissais, mais sans plus, tu vois, que je connaissais, mais ce n'étaient pas mes meilleurs amis qui sont venus, qui m'ont appelé, qui m'ont amené des choses. Ma voisine m'a amené des fruits et des légumes dans son jardin. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je n'avais pas ces rapports avec eux. C'est des gens avec qui je n'avais pas beaucoup de contact. Et du coup, il y a eu tout ce monde qui est arrivé un peu, qui m'a amené un livre, qui m'a conseillé des choses, qui m'a écouté aussi. Il n'y a pas que des conseils à recevoir. Nous aussi, on a une expérience aussi, hein, on peut échanger. Et ça, ça a été, ça fait partie d'un tout pour moi. En tout cas, cette année-là a été très riche, j'ai beaucoup appris.
L'entourage est hyper important. Le soutien est fondamental quand on est dans des traitements comme ça difficiles. Et moi, je te rejoins aussi vachement. La chance qu'on a quand on vit dans un milieu rural, c'est qu'il y a une autre forme de solidarité. Moi, j'ai souvent dit qu'il vaut mieux avoir un cancer à la campagne qu'à la ville, parce que je pense qu'il y a une individualité qu'on n'a pas dans nos territoires un peu ruraux. Et l'entourage est indispensable. Et moi, par exemple, je n'avais pas de famille hormis mon fils. J'étais maman célibataire. Et que ce soit pour le premier ou le deuxième, les deux périodes, il n'y avait pas d'homme, pas de conjoint. Pas de famille sur place, parce que ma famille est en Bretagne. Et du coup, moi, c'est le réseau amical, les amis, mes amis à la vie, à la mort, qui ont vraiment été très présents. Et c'est indispensable, le soutien et l'entourage autour des personnes malades. Et effectivement, c'est pas simplement apporter des choses, c'est être une écoute, une oreille, discuter, prendre le temps, mais c'est vraiment fondamental. Donc, les amis et la famille.
Et
j'ai une question. Bah, si vous faites partie d'une association, avez-vous recours à ces associations ou des groupes de parole qui vous auraient aidé?
Bon, d'abord, je fais une toute petite parenthèse. Je vais essayer d'aller vite. Quand j'ai fait mon traitement, un traitement classique qu'on fait en France quand on a un cancer, en même temps, j'ai fait de la médecine chinoise. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai pris des plantes chinoises, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à quoi? Ça m'a aidé à ne pas perdre de poids pendant les traitements, à rester costaud. Voilà. Je voulais juste dire ça. Après association, j'ai eu la chance à la fin des traitements de partir à Chamonix dans l'association de Christine Janin, qui est la première femme à avoir gravi l'Everest, et qui a une association qui s'appelle À chacun son Everest. À Chamonix, elle ouvre sa maison, qui n'est pas vraiment sa maison, un grand chalet, pour les enfants qui ont eu des cancers, des leucémies, et pour les femmes qui ont eu des cancers du sein. Parcours sportif, groupe de parole, méditation, yoga, il y a un tas de choses qui se passent dans cette maison. On y reste une semaine. Moi, j'ai rencontré 12 amis. J'en revois encore 8. Et ça a été un moment de reconstruction formidable. Ça m'a donné le coup de pouce, le boost, pour vraiment finir le travail, tu vois, voilà.
Cette association, elle est énormissime. Et moi aussi, j'ai eu la chance de faire une semaine en stage de reconstruction chez Christine, À chacun son Everest. Et cette association, elle est accessible pour toutes les personnes qui sortent des traitements, qui sont originaires de la région Rhône-Alpes ou de la région Île-de-France. Donc, c'est très encadré. Mais si les auditeurs peuvent être intéressés, c'est À chacun son Everest. Et c'est vraiment hyper important, cet asso. Et d'une manière générale, le travail des associations dans les parcours de soins quand on est malade du cancer, c'est hyper important parce que ça peut permettre d'avoir des soins et des moments de déconnexion et des moments de bien-être et des moments qui aident à lâcher prise. Et quand on a des traitements lourds, et ben voilà, un petit massage, une petite séance chez l'esthéticienne, même si on n'a plus de cheveux, mais un petit... Ben voilà, on peut... Bref, il y a plein de choses qui sont hyper importantes. Donc, se faire prendre soin de soi et que les autres nous aident à prendre soin de soi, ça, c'est un travail que les associations font et c'est fondamental.
Petite parenthèse, juste pour dire que c'est important aussi de parler avec des gens qui ont la même pathologie, parce qu'on arrive à dire des choses qu'on, des fois, on n'ose pas trop dire à nos proches. Donc là, vraiment, on y va.
Donc là, plus sur les groupes de parole ou par des associations, on rentre dans des réseaux.
Y compris les émotions. Parfois, on veut protéger un peu les proches, mais là, c'est différent.
Ouais,
on sait de quoi on parle. Et c'est important de se lâcher aussi, entre guillemets, là-dessus.
Et donc là, on parle d'associations et de groupes de parole ou de malades pendant le parcours de soins et aussi juste après, avec À chacun son Everest. Et donc, il y a plusieurs moments, plusieurs associations qui ont plusieurs rôles, à la fois pour se reconstruire ou à la fois pour passer ce moment. Je crois que Amy,
oui,
tu avais une question.
En parlant de l'association de l'Everest, et bah, y a aussi Julie. Tu peux nous parler de ton association?
Alors,
allô, allô.
Avec grand plaisir. Donc, l'association Les Lolo Allo, c'est du coup une association que j'ai créée en Bretagne parce que quand j'étais en traitement, j'ai été faire ma convalescence dans mon pays breton. Je suis originaire de là-bas, ma famille était là-bas, donc j'étais à Crozon. Crozon, c'est une presqu'île, donc il y a de l'océan partout. Et l'océan, moi, m'a énormément aidée à me reconnecter. Et quand j'étais en Bretagne, j'ai eu la chance d'avoir des associations qui m'ont aidée, notamment en m'offrant des massages, des soins de réflexologie, je faisais du yoga thérapeutique. Et quand j'étais là-bas, donc avec mon amie, je me suis dit, il faut vraiment que je rende aux associations ce qu'elles m'ont offert et j'aimerais faire un retour voilà, au territoire qui m'a accueillie pendant ma convalescence. Et on est parti d'un principe assez simple où on se disait, bah, Octobre Rose, il faut sensibiliser à la prévention des cancers. Mais Octobre Rose, on va tout le temps marcher ou on va courir et on ne fait rien dans l'eau. Et nous, quand je suis en Bretagne, il y a de l'océan partout. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose à l'eau. Et donc, j'étais avec ma copine sur notre surf. Là, on essayait de surfer après mes traitements, mais je n'y arrivais plus. J'étais trop fatiguée. Je n'arrivais même plus à mettre ma néoprène. Et là, ma copine me dit, écoute, Julie, on va faire un truc, on va faire les lolos à l'eau. Je fais, oh, les lolos à l'eau, t'es bête. Et là, on s'est dit, non, mais c'est cool. En fait, c'est chouette. Et donc, l'association s'est créée comme ça. Et cette association, donc, pour l'instant, elle a un premier objectif, c'est qu'on organise un événement par an à Crozon, où on fait un événement solidaire et joyeux, et on fait de la prévention. On insiste sur la prévention des cancers. Et on cherche à réunir les gens que tout le monde se mette à l'eau pour la bonne cause. Donc, on peut faire des cours de surf, des cours de yoga, des cours de longe-côte, du bodyboard. Et nous, après, ça nous permet de récolter de l'argent. Et cet argent qu'on le récolte, on le redonne aux associations qui aident les personnes malades. Voilà. Donc ça, c'est l'objet des Lolo Allo. Et donc là, on a fait la troisième édition. Et cette année, avec l'association des Lolo Allo, on a voulu sensibiliser à la prévention des cancers pédiatriques. Donc tout à l'heure, Françoise a parlé des cancers des enfants qui vont effectivement dans la maison de Christine à chacun son Everest. Donc nous, là, on a reversé à Rêve de Clown, qui sont les clowns à l'hôpital, et Un enfant, un avenir, qui permet à des enfants qui ont malheureusement le cancer de faire des activités en famille autour de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les Lolo Allo. Et après, on a d'autres projets avec l'asso, mais je n'en parle pas tout de suite. Mais juste pour dire qu'à terme, je pense qu'on va inviter les femmes à venir prendre des cours de surf en presqu'île de Crozon dans les séjours de reconstruction.
Merci. Et quelle est la première chose aussi que vous avez fait une fois avoir être sortie du traitement, être guérie de ce cancer?
Moi, j'ai fait un grand voyage. Je suis partie à Hong Kong, je suis partie en Thaïlande, je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un grand voyage. Mais mes enfants étaient là-bas, donc je ne suis pas partie au hasard. Et j'ai déconnecté un peu avec la maison, le quotidien. Et c'était comme une nouvelle vie aussi. Je me suis redécouverte dans d'autres pays totalement différents des nôtres. Du nôtre, voilà. Pour moi, ça a été ça.
J'ai fait un voyage aussi, je crois, après le premier cancer. Mais tu célèbres la vie, tu fêtes la vie. En fait, tu es tellement heureux d'avoir fini ton traitement. Tu es tellement heureux de te dire toutes ces mauvaises heures et ces mauvaises journées que tu viens de passer, ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est bloqué. T'es les vacances. C'est les grandes vacances puissance 1000. Tu vois,
voilà. Je dirais même, pour rebondir sur ce que Julie dit, que quand j'ai repris le travail, je ne le voyais plus de la même façon. J'avais plus de distance. J'étais moins susceptible. Je m'énervais moins. D'abord, je l'ai pris à temps partiel. Je n'avais jamais vécu un temps partiel. J'avais toujours été à temps plein. Et là, d'un coup, j'ai de venir travailler le matin, de venir tranquillement. J'ai découvert ça, d'aborder le travail tranquillement. Et puis, quand ça s'embrouillait un peu, quand il y avait un peu des histoires comme il y a partout, moi, j'avais une distance. Je me disais, ce n'est pas la peine de faire toute une histoire pour ça. C'est rien, ça. Ça, c'était sympa.
Ce qui révèle, ce que dit Françoise au travers de ça, c'est qu'on est différente après les traitements. On est transformé. Les traitements sont tellement difficiles, c'est tellement une épreuve de vie d'affronter un cancer que on en sort un peu différente quand même. Voilà.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser, tout ça, les traitements et tout? Comment s'appelle cette épreuve où on saute une barre, là, une barrière? Comment s'appelle où il saute avec, avec une jambe ouverte?
C'est la course à la haie, là. Non,
le
saut de haie, c'est ça.
Vous connaissez ça? Eh bien, moi, j'ai l'impression que ça a été ça, le traitement.
Ah ouais.
J'ai sauté des obstacles, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
Mais alors, moi, c'était un ultra-trail avec 10 000 de dénive.
Waouh. Non, mais attends, moi, je ne suis pas sportive comme ça. Je suis restée à l'horizontale sur mon petit parcours. Hein. Mais c'était bien.
Ok, et du coup, vous avez un peu répondu. Cette maladie, du coup, elle vous a transformé votre vision de la vie. Et en quoi elle... Comment elle l'a transformée?
C'est des super questions philosophiques, merci. ça me fait penser à un titre d'un livre qui est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », un truc dans ce style. Tu prends conscience que tu as une date de péremption, quoi. On te rappelle que tu n'es pas là tout le temps et ça te remet effectivement la fin de vie un peu de manière frontale. Et quand tu survis à ça, quand tu as la chance de t'en sortir, c'est ce qu'on dit, tu as un élan de vie encore plus important et tu vois les choses avec plus de détachement et plus de légèreté. Tu reviens à l'essentiel. Hein?
Oui, c'est vachement important ce que tu dis. Moi, j'ai lu un livre, alors c'est toujours pareil, ça m'appartient. Je ne dis pas que ça plaira à tout le monde, qui s'appelle « Bienheureuse maladie », mais moi, ça m'a parlé. Parce que la maladie m'a... C'était pas, j'aurais préféré ne pas avoir de cancer. Hein. Mais la maladie, ça m'a ouvert les yeux sur des choses. J'étais un peu butée. Il fallait avancer, il fallait y aller. Il fallait y aller à fond. Et tout d'un coup, j'ai vu la vie autrement. Et ça, c'était très, très précieux. Et mon chirurgien m'a dit un jour, vous connaissez la petite phrase, tomber 7 fois, se relever 8. Hein, je crois que c'est ça. Je trouve cette phrase très importante. Elle m'a beaucoup aidée aussi. Je me suis dit, on se relève toujours. Ouais, on se relève.
Et... Quel projet ou engagement en sont nés
de nos différentes expériences de face au traitement et à la maladie. Bah, moi, comme j'en ai parlé, donc il y a eu les lolos à l'eau. Moi, c'est vraiment un atterrissage concret. Après, je vais juste faire une petite aparté sur l'action aussi qu'on a mis en place à Villard-de-Lans et qui est Vercors Rose. Alors, Vercors Rose, c'est une association qui existe déjà sur Villard-de-Lans et qui organise notamment un match en rose à la patinoire. Et depuis l'année dernière, on a proposé de prendre en charge financièrement les soins de bien-être pour les femmes du plateau du Vercors, que ça soit le Vercors Nord ou le Vercors Sud, qu'elles soient atteintes de n'importe quel cancer féminin, mais voilà, qu'il y ait une prise en charge financière de ces soins de bien-être. Et ça, c'est vraiment une action qui découle assez récente et qui découle de nos expériences. Ouais. Quoi. Ouais. Puis on a envie d'aider hein, derrière, on a envie de témoigner, on a envie de partager.
Je suis complètement d'accord. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de solitaire avant d'être malade. Et en fait, solitaire, j'avais des amis. Et là, j'ai découvert ce que c'est qu'un groupe d'amis IES. Là, il se trouve que ce sont des femmes et que ce sont des femmes qui sont passées par là. J'ai découvert le plaisir de les retrouver. Donc, on va tous les ans, on se retrouve vers à chacun son Everest. Elle fait une fête et on y va. On va chercher les Parisiennes à la gare, on les héberge, on se retrouve. Et puis, je participe à des marches. Moi, je n'ai pas d'association, mais je participe à des courses, à des marches. Il y en a un peu de partout maintenant. Hein. Octobre Rose, je crois qu'on l'a un peu intégré. C'est une bonne chose.
Et moi, alors, en dernière petite aussi remarque, quelque chose que je fais et que j'ai amorcé, c'est le fait de faire un peu de militantisme pour les corps alternatifs. Du coup, comme j'ai expliqué aux filles, vu que je suis à plat, c'est quelque chose qui est un petit peu différent maintenant. Et du coup, j'ai accepté de faire un travail de photo pour montrer voilà, des corps singuliers et pour un peu briser les, quoi, casser les codes et briser les tabous sur voilà, le culte de la femme avec voilà, une poitrine. Et là, l'idée, c'est de montrer voilà, des images différentes et de montrer qu'on peut avoir une beauté dans un corps abîmé. Voilà. Donc, je fais des photos. Et donc, forcément, avec Françoise, nous serons présentes pour accompagner la Super Pink Team à la vente de gâteaux à la recyclerie de la Chapelle en Vercors ce samedi 4 octobre de 10h à 12h. Donc, c'est la piste recyclable de la Chapelle. Et les filles, vous êtes en or et c'est top parce que votre
c'est
action...
C'est super ce que vous faites.
Voilà, pour aider aussi l'asso des Lolo à l'eau, c'est très touchant. Donc, un énorme merci.
Merci.
Merci à
merci
vous.
À vous.
Merci. On peut peut-être...
Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes femmes, à celles qui ont découvert qu'elles avaient un cancer ?
Gardez l'espoir, gardez la foi, croyez en vous et acceptez l'aide qu'on peut vous apporter.
Moi, je suis bien sûr à 100% avec ce que tu dis. Je rajouterais que c'est une expérience qui n'est pas marrante, c'est vrai, mais c'est une expérience. La vie est pleine de... Hein, y a des tournants, même quand on se balade, hein, y a des passages plus compliqués où il faut grimper, où la route est moins plane, où on ne sait pas vraiment où on va. Des fois, quand on se balade, c'est comme ça. Mais la vie est un peu comme ça aussi. Il faut y aller. Il faut y aller.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Moi, j'avais une question pour la Pink Team. Donc, on vient de parler de cette vente de gâteaux. Amy, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les projets de la Pink Team, à la fois les projets maintenant, qui vont se passer dans très peu de temps, et puis les projets pour le futur, parce que vous voyez loin.
Oui. je pense qu'on voudrait voir jusqu'au troisième, parce qu'au lycée, on se séparait sûrement. Déjà, cette année, on fait ça déjà, et après...
Donc, il va y avoir cette vente de gâteaux. Oui. Est-ce que tu peux nous re-raconter cette vente de gâteaux ?
C'est pour déjà sensibiliser les gens et puis pour l'argent aussi un petit peu, parce que quand même, il faut quand même soutenir les associations des deux côtés. Et donc là, on soutient Lolo à l'eau, à la recyclerie, et on vendrait des gâteaux, plein de sortes de gâteaux. Et la recyclerie nous a accordé de venir.
Et donc l'idée, c'est de vendre ces gâteaux pour récupérer des fonds et les reverser à l'association Les Lolo à l'eau.
Oui, c'est ça. Mais après, dans les prochaines années aussi, genre en troisième, il y a une association, c'est pour faire des perruques pour les femmes qui sont chauves. Et donc, on aimerait bien mettre plein d'autres gens sur le coup, et la télé ou je sais pas, et qu'on se couperait à peu près la longueur des cheveux d'une feuille A4. Voilà. Après, peut-être que si d'autres associations qui nous intéressent, on pourrait essayer de les soutenir, mais genre après, il faut qu'ils nous fassent des demandes. Donc, parce que nous, on les connaît pas plus que ça, donc voilà. Et il faut quand même prévenir, genre bien un mois en avance et tout, même 2 mois, parce que là, on était un peu short, on a prévu qu'un mois, et donc voilà.
Et moi, je voulais rajouter un truc, c'est que, oui, là, on soutient les Lolo à l'eau, mais on s'était dit que peut-être que, quand ce sera terminé, refaire un truc dans le genre pour soutenir une autre association, c'est important aussi de soutenir l'association un peu dans le besoin, parce que parfois, on n'y prête pas assez attention à ces associations.
Et donc là, on rappelle, donc vous allez faire cette vente de gâteaux. C'est vous qui avez eu l'idée de faire cette vente de gâteaux solidaire. Donc vous allez reverser tous les fonds de cette vente de gâteaux à l'association Les Lolo à l'eau. Cette vente de gâteaux, donc on rappelle, ça sera à la piste recyclable, c'est la ressourcerie de la Chapelle en Vercors, le samedi 4 octobre de 10h à midi. Vous serez présente. C'est évidemment en partenariat avec Vertapop, qui coordonne l'association. Et je vais laisser Malou nous présenter les partenaires de cet événement.
Donc, on est en partenariat donc avec Vertapop, Fanny et Aurélie, les animatrices du local jeune. La piste recyclable de nous accueillir, donc le gîte Montjoie qui nous héberge le 3 octobre.
Parce que vous allez cuisiner les gâteaux au gîte tout ensemble le vendredi soir, c'est ça?
Oui, et donc on va dormir là-bas. La Tosella qui nous donne de la farine donc pour les gâteaux. C'est une boulangerie qui se trouve à Vassieux, en Vercors. L'Esprit du Nord qui nous fournit les œufs locaux, donc aussi pour les gâteaux. On connaît parce que c'est un de nos surveillants du collège. Et donc Radio Royan Vercors, pour nous avoir permis de faire cette interview et de dire notre projet. Et merci surtout beaucoup, Charlène.
Merci.
Et je voulais vraiment vous remercier à toutes les cinq. Donc, je rappelle vos prénoms. Il y a autour de la table, donc, il y a Amy, Lilou, Thelma, Anna et Malou. Donc, toutes les cinq, vous êtes la Pink Team. Et je voulais vraiment souligner la qualité de vos questions et de vos interviews, votre implication aussi. Et votre engagement dans cette lutte, dans ce soutien aussi que vous souhaitez accorder à l'association, donc Les Lolo à l'eau, mais aussi pour une volonté de faire de la sensibilisation pour Octobre Rose, pour le dépistage, parce que c'est vrai que vous êtes ados, vous rentrez dans cette grande phase de la féminité, et c'est assez beau de voir que votre génération, que vous, ce groupe-là, les Pink Team, vous vous saisissez de cette question-là. Je rejoins le petit historique que j'avais fait sur Octobre Rose, qui est plus qu'une campagne, c'est l'héritage d'une lutte féministe pour la santé, la dignité et la solidarité. Et votre action, là, elle s'inscrit vraiment là-dedans et vous poursuivez cet héritage, vous l'incarnez. Et vraiment, moi, je voulais vous remercier profondément pour cette interview. Et je voulais également vraiment remercier nos deux invités, donc Julie et Françoise, pour ce témoignage, pour être venues jusqu'à nous dans ce local jeune. Moi, ça m'a beaucoup touchée, tout ce que vous avez raconté. Et c'est vrai qu'on n'entend pas souvent ça sur les ondes des radios, des témoignages, en fait, de femmes qui ont affronté cette épreuve, et c'est important d'en parler, d'avoir cet espace de parole. Et nous, à Radio Royan-Vercors, on aime aussi créer des espaces de parole qui sortent de tout ça. Je voulais aussi rappeler les noms des associations dont on a parlé pendant cette discussion. Donc évidemment, il y a l'association de Les Lolo Allo, l'association de Julie. Je pense qu'on peut les retrouver sur Internet. Il y a une page Facebook, il y a peut-être des contacts.
Il y a une page Instagram et une page Facebook.
On va mettre tout ça en ligne avec l'article qui sera avec cette interview sur notre site Internet. On va mettre aussi le lien vers les cagnottes, puisqu'il y en a des cagnottes en ligne. On a aussi parlé de Vercors Rose, qui est l'association qui se trouve sur le plateau Vercors Nord, mais qui concerne les femmes malades Vercors Nord, Vercors Sud. Et puis, on a parlé de À chacun son Everest. Ça, c'est Françoise qui nous en a parlé, et Julie également, là, plutôt pour l'après-cancer, quoi, la guérison.
Christine Janin, Chamonix. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut vraiment faire tomber le tabou du cancer. Pas que le cancer du sein, il faut pouvoir parler de tout. Il faut vraiment pouvoir en parler. Ça soulage beaucoup les gens, les familles, les proches et les gens qui sont concernés. C'est très important. Et ça fait avancer la science. Il faut en parler.
Un immense merci pour votre invitation. Et encore bravo à vous, les filles, parce que effectivement, des jeunes filles qui s'approprient cette problématique et veulent faire de la sensibilisation et se mobilisent comme ça dans cet élan de générosité pour aider alors une asso ou d'autres assos. Mais vraiment, chapeau et bravo pour votre engagement et votre citoyenneté.
Puis un dernier merci, puisqu'on ne les a pas encore trop cités, mais les deux animes de Vertapop qui vous accueillent les mercredis après-midi, des deux super animes. Donc on parle d'Aurélie et de Fanny. Aujourd'hui, on est en compagnie de Fanny qui a un peu chapeauté tout ce projet. Merci beaucoup à L2. Je crois qu'il y a encore plein d'aventures radiophoniques qui nous attendent et on a hâte de voir la suite. Merci.
Merci.
Merci à tout le monde.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie. Tu as servi.